Écoutez bien. Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 d'Opson.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
C'est Monsieur Jean-Marie Le Pen qui rentre chez lui un soir. Donc, et il voit d'un seul coup donc une personne faire du stop. C'est Mohamed qui fait du stop. Oh, il dit, je vais le prendre. Donc il prend Mohamed. Et puis ils discutent. Ah, Mohamed dit, écoutez, je vous remercie parce qu'on dit tellement de choses vilaines à votre sujet que là, c'est rien, Mohamed. C'est normal, c'est la France. Ça, c'est comme ça qu'il faut qu'on se voit ensemble. Ah ben dis donc, mais alors Mohamed, tu couches où ce soir ? Ben, je vais voir s'il y a un hôtel, s'il y a une chambre libre. Ben non, mais Mohamed, tu viens chez moi, j'ai une grande maison, j'ai plein de chambres. Oh, M. Le Pen, vraiment, vraiment. Bon, enfin, je ne sais plus quoi vous dire, M. Le Pen. Mais t'inquiète pas. Alors, donc, il rentre dans la propriété. Puis il dit, allez, Mohamed, maintenant, on va peut-être manger quelque chose. Oh, ben oui, si. Ben oui, j'ose pas insister, mais bon. Allez, viens-y, mange. Donc il fait un repas, donc ils font un repas ensemble. Puis Jean-Marie lui dit, bon, maintenant, juste avant de te coucher, moi je te conseille, c'est donc un petit coup de piscine. Un petit coup de piscine. Ça va te détendre, tu vas voir, hein, et puis ça va être très bien. Bon, bah écoutez, moi j'ose pas, mais t'inquiète pas, Mohamed, t'inquiète pas, ça me fait plaisir. Bon, donc Mohamed plonge dans la piscine. Et à ce moment-là, on voit Monsieur Le Pen qui ouvre une grande trappe. Donc, il ouvre une grande trappe et de là sort un crocodile énorme. Et Mohamed dit « Oh, Monsieur Le Pen, même une piscine Lacoste !»
Salaire, profession, politique, parité, publicité, éducation, ménage, égalité, équité, misogynie, rose et bleu, chou et rose, Barbie et G.I. Joe, pantalon, jupe, burkini, droit de garde, pension alimentaire, répartition des sexes, poste de direction, responsabilité, suggestion, suicide, Mars et Vénus, autonomie, temps partiel, précarité, nature et culture, culturisme, dictateur ou dictatrice, droit de vote, compte en banque, 8 mars, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Vous l'aurez compris, nous allons parler de l'égalité femmes-hommes. D'après le premier article de la Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Une fois qu'on a dit ça, on se rend bien compte que dans les faits, l'égalité homme-femme n'existe pas. Pour en parler et évoquer des pistes d'évolution, nous recevons aujourd'hui Sarah Manta de la préfecture de l'Eure.
Au sommaire aujourd'hui, une interview égalitaire, des lectures des textes en simple mixte, des musiques pleines de testostérone et d'ostorgène, une recette sucrée salée de la petite cuisine d'Ozone, avec un peu de chanson, une minute de Paul ou de Pauline, un épisode presque paritaire de Narvalo, un micro-trottoir de sexe neutre. Pour vous servir, aujourd'hui, Rémi, Didier, Stéphane, Mbangis, Sévère, Jean-Roger, Sandrine, Béa, Vivien et Timothée.
Alors, un texte de l'atelier d'écriture, il faut savoir qu'on va en avoir trois aujourd'hui sur le même texte.
le même thème. C'est-à-dire, j'ai demandé un changement de sexe, c'est-à-dire à ces messieurs de se mettre dans la peau d'une femme et à ces mesdames de se mettre dans la peau d'un homme. Donc là, c'est une de nos écrivains. Ce matin, je me réveille dans la peau d'un homme. Quel bonheur de ne pas avoir à faire la vaisselle et le ménage avant de sortir travailler. Je prends la voiture pour m'y rendre et mon taux de testostérone monte à chaque accélération. Lorsque j'arrive au bureau, je croise la secrétaire et comme d'habitude, je me retourne pour lui regarder les fesses. Je lui commande un café sans plus de considération, passe ma journée de travail emplie d'autosatisfaction, puis rentre chez moi. J'ai bien dit chez moi, pas chez nous. Retrouver ma femme et nos enfants. Me sens légitime de m'installer devant la télévision puisque j'ai fait ma journée de travail. Lorsque mon épouse dit à table, j'ai soudain quelque chose à faire, puis finalement, après un quart d'heure, viens manger. Vais me coucher sans enlever mes chaussettes et prétends pouvoir exiger le devoir conjugal sans autre forme de procès. Finalement, je m'endors satisfait et ronflant fort.
C'était Army of Me par Björk Gudmundsdóttir. Et nous recevons aujourd'hui Sarah Manta de la préfecture pour parler de l'égalité, du thème de l'égalité homme-femme. Alors bonjour à vous.
Bonjour.
Alors première question, je vais vous demander en quoi consiste votre travail exactement.
Donc, je suis en charge du développement de politiques en faveur de l'égalité femmes-hommes et des droits des femmes à l'échelle du département de l'Eure, sous l'autorité du préfet pour le ministère des droits des femmes. Il s'agit donc en fait selon deux grands axes qui portent sur la lutte contre les violences, la santé, le respect de l'intégrité d'une part et d'autre part la promotion de l'égalité professionnelle mais aussi de l'égalité dans toutes les sphères de la vie, à savoir le sport, la culture, la vie associative, la citoyenneté, de favoriser plus de mixité puisque en France nous avons encore beaucoup de retard sur la question.
Et quel est votre champ d'intervention ?
Donc, c'est vraiment l'échelle du département de l'Eure. J'apporte un soutien aux associations qui déposent au service de l'État un projet en faveur de l'égalité. Pêle-mêle, il peut s'agir de soutenir des permanences juridiques gratuites donc, qui sont proposées par des associations partout dans le département, Louviers, Val-de-Reuil, Pont-de-l'Arche, Charleval, Évreux, Bernay, vraiment partout, pour que les femmes et aussi les hommes, c'est-à-dire les familles, aient des renseignements juridiques gratuits, en matière de violence ou pas, mais en matière de droit de la famille en général. Il peut s'agir de soutien financier à des projets pour renforcer la mixité, lutter contre les stéréotypes d'orientation, former les jeunes qui sont, enfin plutôt les former les professionnels qui sont en lien avec l'animation, la jeunesse, puisque ce qu'on repère, c'est que dès le plus jeune âge, les stéréotypes sont déjà formés. Donc il s'agit vraiment que tous ceux professionnels qui sont en lien avec les enfants soient, qui sont la porte d'entrée vraiment pour une éducation égalitaire, soient formés. Or, ce n'est pas le cas. On voit encore beaucoup de comportements homophobes, sexistes, même involontairement. On parle aussi de bienveillance, d'intériorisation bienveillante des stéréotypes sexistes. Je donne un exemple. Il pourrait s'agir pour un conseiller du Pôle emploi ou un animateur de centre de loisirs de dire à une fille, ou un garçon, mais prenons l'exemple d'une fille, je vous conseille de ne pas postuler dans cette branche-là ou ne t'inscris pas à cette activité-là, par exemple chantier, bricolage, n'importe quoi, foot, cabane dans les bois, parce que ceci, cela. Donc là, il ne s'agit pas vraiment d'un sexisme ouvert, c'est-à-dire contre la personne et volontaire, il s'agit plutôt des précautions qu'on prend en intériorisant le fait que les conditions vont être un petit peu plus difficiles dans la situation donnée. Donc ça couvre vraiment beaucoup de situations. On fait beaucoup de sensibilisation aux entreprises, on travaille sur les stéréotypes sexistes qui sont en lien avec la contraception, la place des femmes dans le sport, voilà, c'est très varié.
D'accord, et alors quelle est un peu la part locale, puisque vous travaillez pour le département, et ce qui est imposé par l'État ? Je sais pas quelle.
Je dirais que même au local, tout est imposé par l'État, dans le sens où on décline la politique publique qui est portée par le gouvernement. Mais, bien sûr, elle s'adapte, elle s'ajuste et elle s'articule aux spécificités locales, c'est-à-dire aux institutions ici, conseil départemental, conseil régional, les mairies, toutes les mairies, les grandes comme les petites. Et je peux prendre un exemple, par exemple, on a un dispositif ici qui n'existe pas encore autour de la garantie contre les impayés de pensions alimentaires. J'ai bien aimé que ça soit mentionné dans l'introduction parce que c'est quelque chose qu'on ne visualise pas souvent comme une inégalité femmes-hommes. En général, pourtant, les statistiques nous disent que un bon deux tiers des pensions alimentaires ne sont pas versées du tout. Ce qui fait qu'on peut parler d'une paupérisation, d'une précarité des familles monoparentales qui sont à 80% féminines. Alors ça, c'est un dispositif qui, localement, n'a pas encore été adapté. En revanche, à l'inverse, par exemple, on a un dispositif que, localement, bien que tous viennent de l'État, on a pu adapter un petit peu en avance, je dirais, à titre pilote. C'est, par exemple, le téléphone portable grave danger pour les femmes en état d'urgence avec leur conjoint.
La notion d'égalité homme-femme existe-t-elle dans tous les pays ?
Alors, la notion existe, le concept existe. Par contre, ce qui n'existe pas partout, c'est son application. Par exemple, on peut noter l'exemple des printemps arabes. La Tunisie, qui a un passif d'égalité homme-femme, je dirais, qui d'une certaine manière, avec l'accession à l'indépendance, était aussi fort, voire plus fort que chez nous, sur certains points, hein, dans la Constitution et dans le droit, s'est réveillée à l'occasion des printemps arabes, puisque le gouvernement qui a été élu a voulu rayer cette notion de la Constitution. Je crois que ça a été le détonateur qui a fait dire à la population « Non, ça ne passe pas. On est un pays démocratique avec des valeurs égalitaires, au moins dans la sphère sociale. Qu'on soit de nouveau un pays religieux ou pas, on se réveille là-dessus. » Mais dans tous les pays, cette notion n'est pas abordée du tout de la même manière. Et à rebours des stéréotypes, on pourrait dire par exemple que la Suisse a donné le droit de vote aux femmes dans les années 70, alors qu'en Turquie ou en Tunisie, c'était quand même dans les années 50, donc un petit peu comme nous, mais en Turquie, c'était dans les années 20. Donc la notion d'égalité femmes-hommes est vraiment, ne va pas de soi et est vraiment liée à la culture, comme vous l'avez dit dans l'intro. Donc, aux États-Unis, selon les États, par exemple, on a des lois qui peuvent être ouvertement homophobes selon les États ou ouvertement sexistes en matière de restriction de l'accès à l'avortement.
Et comment peut-on expliquer cette évolution des sociétés sur cette notion ?
Alors, je dirais, c'est une bonne question, que tous les sursauts historiques, parfois violents, qui ont forcé à plus d'inclusion autour de la démocratie et de la République, c'est le cas en France, par exemple. 1789, on proclame une république démocratique. En fait, elle n'est pas ouverte à tous les citoyens, puisqu'elle fixe des conditions qui sont l'âge, le niveau de richesse, le fait d'être un citoyen qui paye des impôts, et le sexe. Pourtant, on a parlé de république universelle. Deuxième étape, 1848, là, on dit, on fait sauter la condition de richesse, de classe sociale, en disant non, on s'adresse à tous les citoyens majeurs masculins. Troisième étape, 1945, là, on l'ouvre aux femmes. Bah, en fin de compte, on voit que c'est à chaque fois au terme de heurts, de conflits, parfois de révolutions, que la République dans tous les pays s'ouvre vers plus de citoyens. Là, on n'est pas encore dedans, mais très probablement, dans des dizaines d'années, on va se rendre compte que c'est totalement gratuit et injuste de ne pas faire voter les enfants. Et même, il y a des discussions au sujet de la représentation politique démocratique, donc du poids de la parole de ceux qui ne peuvent pas parler, comme par exemple les végétaux ou les animaux. Donc là, c'est pour réflexion que je dis ça, dans le sens où très probablement qu'on trouvera des systèmes à l'avenir pour faire parler ceux dont la vie importe aussi en démocratie. Voilà comment ça se développe dans tous les pays.
Alors, on va écouter maintenant un premier micro-trottoir où on a posé la question, justement, quelles étaient les différences entre les hommes et les femmes.
Au quotidien, quelles sont les différences que vous observez ?
Bah, toujours un peu les mêmes stéréotypes, c'est-à-dire les petites filles qui confondent dans un monde d'un peu de princesse, voilà, très esthétique, très jolie. Puis les garçons, plus les voitures, la bagarre, voilà. Donc les stéréotypes sont encore très, très ancrés.
Ils s'attribuent des droits que nous n'avons pas.
Qui ?
Les hommes s'attribuent des droits que nous n'avons pas. J'entends souvent mon copain me dire « Oui, mais c'est pas pareil, moi je suis un homme ».
Voilà. Au quotidien, les différences, la maman s'occupe beaucoup plus de l'enfant par rapport au papa. Pourquoi ? Peut-être que le papa n'a pas encore n'a pas cette prise de conscience. Il est encore trop dans les mentalités anciennes où l'homme travaille et la femme s'occupe de l'enfant. Pour moi, c'est mon cas, quoi.
Au niveau, non, elle n'est pas respectée. Ça, la femme est encore... Pour moi, elle est encore inférieure à l'homme. Mais par contre, la femme fait plus de travail comme les hommes. Donc, il faudrait faire un équilibre. Les femmes, moi, je vois beaucoup de femmes de travail plus que l'homme, prendre plus de destinatives pour les femmes, plus que l'homme.
Les tenues, hein, on est beaucoup plus moins affrété lorsqu'on se déplace, par exemple, dans ce magnifique supermarché Super U. Hein. J'ai juste mis mon survêt alors qu'elle a fait un effort pour parler du quotidien. Au quotidien aussi, vous verrez que les femmes, elles sont un petit peu plus chargées au travail. Souvent, c'est elles que je vois à la salle récupérer les gamins le mercredi après-midi, qu'elles travaillent ou qu'elles ne travaillent pas, lorsqu'on s'occupe d'eux au niveau du centre de loisirs. Et après, c'est pas au quotidien parce que c'est pas à chaque jour, mais on le voit bien sur la feuille de salaire de temps en temps que c'est pas très 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 juste, la façon d'être et le comportement.
Je pense qu'on favorise plus les hommes au niveau de l'emploi et que nous, les femmes, on est un petit peu, on a plus de mal, je dois dire, à trouver une bonne place. Ça, c'est pour le moment, c'est la seule chose que je vois. Dans la vie de tous les jours, ça va encore. Je dois dire qu'à l'heure actuelle, on a quand même évolué, mais bon, voilà, c'est. Je ne rencontre pas trop de problèmes encore.
Alors, je vais vous demander si vous avez des réactions à ce qu'on vient d'entendre.
Oui, alors déjà, merci pour votre travail, c'était très intéressant. Je pense que les personnes qui ont répondu se portent dans la moyenne, sont bien le reflet de la situation des inégalités en France, avec deux tendances opposées, malgré tout, qu'on perçoit aussi dans le reportage, c'est soit ceux qui sont du côté d'une impression qu'il y a l'égalité. Moi, je parlerais plutôt d'une illusion de l'égalité. Et puis ceux qui, à l'inverse, sont plutôt négatifs en disant que rien ne bouge, que ça stagne, etc. Ce qui n'est pas faux non plus. Donc il faut, je pense, trouver le juste milieu. Du côté des réactions, j'ai bien aimé aussi l'analyse du monsieur au supermarché qui dit « Moi, je saute dans un pyjama, elle est apprêtée, qui va chercher les enfants à l'école ?» Quand on parle d'illusion de l'égalité, c'est ça, c'est qu'on se rend compte que même dans un pays avancé comme la France, on pourrait dire que l'espace public n'est pas du tout ouvert aux hommes et aux femmes de la même manière. Encore une fois, si on parlait du sexisme comme on parle du racisme, si on étudiait que dans une ville, il y a des endroits où plutôt les Noirs vont, des endroits où plutôt les Blancs vont, on serait extrêmement choqués. Quand on se rend compte, en fait, qu'on fait une analyse genrée de la mixité ou plutôt de la non-mixité dans l'espace public, ce qui ressort de manière très claire, c'est que les infrastructures collectives ne sont pas du tout utilisées de la même manière selon le sexe auquel on appartient et qu'une grande partie des installations, je parle des terrains de foot, des cafés, donc la privée, terrains de tennis, skatepark, etc., sont des endroits où les hommes marquent leur présence dans l'espace public, donc sont habitués ensuite à être entre eux, en réseau, à traîner dehors. Ce qui renforce, on dirait, le sentiment d'insécurité, en tout cas d'inégalité à minima, entre les sexes. Et c'est quelque chose sur lequel l'État est en train d'essayer d'avancer en organisant, entre autres, des marches exploratoires, c'est-à-dire des diagnostics non mixtes que les femmes peuvent faire dans les villes pour repérer ce qui est générateur d'insécurité. C'est pas facile du tout parce que, très objectivement, on voit à quelle femme est-ce que ça viendrait l'idée d'aller se poser dans un café sans passer pour une aguicheuse qui irait se poser sur un banc avec une bière si on n'est pas un homme. C'est très difficile.
Pourquoi l'inégalité entre hommes et femmes est-elle davantage en faveur de l'homme ? Pourquoi ?
Pourquoi ? Alors ça, c'est vraiment la question des origines.
Oui, d'où vient cette inégalité qui semble remonter à la nuit des temps ?
Bon, alors, de par ma position, c'est-à-dire que je ne peux pas répondre dans le sens où on ne nous donne pas d'explication préhistorique en lien avec le poste. Malgré tout, ce qui semble être avéré, c'est que c'est la division sexuée du travail qui a instauré ces inégalités. C'est-à-dire que on a l'illusion que les femmes travaillent depuis très récemment. Non, en fait, c'est faux. Elles ont toujours travaillé, même beaucoup plus que les hommes, sauf que c'était du travail gratuit, une certaine forme d'asservissement volontaire ou involontaire. Donc, en fait, quand on se retourne en arrière, on se rend compte qu'à l'époque où les pays d'Europe étaient encore dans le format de la paysannerie, les femmes travaillaient. Ce sont les guerres, et même les guerres précédentes, qui les ont un peu plus poussées dans la sphère publique. À la fois, ça a beaucoup modifié les choses, à la fois, ça n'a fait que renforcer ce qui était déjà là, mais qu'elle faisait donc de manière un peu évidente et gratuite. Ce qu'on peut dire, c'est que pour remonter encore aux époques avant le Moyen-Âge, la division sexuée du travail s'est faite, je dirais, parce que tout simplement les femmes portent les enfants. Encore que cela ne va pas de soi, parce qu'on voit que dans au moins la moitié de la planète, c'est-à-dire Asie, Amérique latine, Afrique, ce n'est pas parce qu'on porte un bébé sur son dos ou dans son ventre qu'on ne travaille pas. Et je dirais même que les femmes travaillent même plus, enceintes ou pas, que les hommes. C'est-à-dire qu'elles sont, dans 80% de la planète, celles qui produisent l'alimentation, alors que, c'est une statistique intéressante, elles ne sont que 2% à accéder au foncier, à être propriétaires des terres. Donc en fait, Pour résumer, elle travaille gratuitement sur des terres qui ne leur appartiennent pas et ne récupère pas le fruit de ce pour quoi elle travaille. Donc, la question de la maternité, qui est vraiment, je dirais, la seule différence vraiment innée entre hommes et femmes, n'est même pas suffisante pour expliquer la division sexuée du travail. La seule chose dont on est sûr, quand on étudie l'art préhistorique, c'est qu'on voit que jusqu'à une certaine période, en fait, quand les humains étaient... est-ce que je parle trop longtemps, là ? Non. quand les humains étaient encore, on va dire, nomades, les préhistoriques, enfin les hommes préhistoriques, ils pensaient qu'ils ne faisaient pas, c'est normal, le lien entre un rapport sexuel et une fécondation. Et donc ils pensaient que de la même manière que les fruits arrivent sur les arbres et voilà, etc., les choses poussent dans la nature, qu'un enfant arrivait comme ça. Il n'y a pas de lien entre ce qui se passe un jour et 9 mois plus tard à l'accouchement. Donc, il donnait une certaine puissance à la femme, c'est-à-dire c'était cette force de vie, c'était les héroïnes qu'on voit encensées dans les vieilles statuettes, grosses, des gros seins. Elles étaient un peu c'était elles les maîtresses à cette époque-là, pour résumer. Et ensuite, du moment que les humains se sont sédentarisés, donc ils ont commencé à installer l'agriculture, le feu, etc., ils ont observé qu'en fait, il y avait des cycles dans la nature, avec des périodes de fécondité dans la nature, et que c'était la même chose pour les humains, puisqu'ils ont commencé à plus vivre ensemble et moins bouger, s'éparpiller, et ont commencé à faire une corrélation avec la notion de rapport sexuel et d'enfant. Et là, c'est là qu'on voit dans l'art que tout d'un coup, ce sont les sexes en érection, etc., qui ont commencé à être vraiment valorisés dans ces dessins et dans ces statuettes, parce qu'en fait, la puissance, elle est basculée du côté des femmes à l'homme, puisque là, on s'est dit, d'accord, c'est, entre guillemets, la semence, comme pour la nature. Donc là, basculement du pouvoir. On peut penser qu'avant, c'était différent. Voilà, pour donner une petite explication, mais qui n'est malgré tout pas suffisante pour expliquer la domination des uns pour les autres.
Alors, on va parler un peu, toujours dans les inégalités, est-ce que la précarité touche plus les femmes que les hommes ? En France,
Oui, bien sûr. Donc, encore aujourd'hui en France, on a 27% d'inégalité salariale entre hommes et femmes, tout secteur confondu. C'est-à-dire que malgré tout, plus on monte dans le privé et plus les inégalités sont fortes, et plus on est cadre plutôt qu'ouvrier, plus les inégalités salariales sont fortes. Ces 27% d'inégalité salariale, je voudrais dire qu'il y a une manière intéressante et drôle de la noter, c'est de dire qu'en fait, du 1er janvier au 29 mars, les femmes travaillent gratuitement en France. C'est-à-dire que 27% d'inégalité salariale sur toute l'année, ça fait tant de temps passé à travailler gratuitement. Ensuite, répercuté au niveau de la retraite aujourd'hui, donc on peut penser qu'il y aura une aggravation pour les générations à venir avec la crise actuelle, ça fait 650 euros de différence entre femmes retraitées et hommes retraités aujourd'hui en France. Donc c'est énorme. Donc sans hésiter, on peut parler de plus grande précarité des femmes ou pour plein de phénomènes qu'on n'a pas forcément évoqués, mais... C'est vrai. Et puis, bien sûr, encore plus pour les femmes en monoparentalité.
Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour l'égalité hommes et femmes et que peut-on faire pour beaucoup plus d'égalité ?
Bon, alors, je dirais qu'il faut donc s'attaquer aux stéréotypes dès le plus jeune âge. Il ne faut pas brimer les enfants par rapport aux projections qu'ils ont en étant enfermés dans leur genre ou dans leur sexe. S'il s'agissait de faire la même chose en fonction des couleurs de peau, tout le monde serait offusqué. Donc il n'y a pas de raison que des filles soient concentrées dans les secteurs d'activité, le soin, la santé, l'éducation et les services, qui sont les moins porteurs de rémunération, d'évolution de carrière, qui sont le plus avec du temps partiel subi, etc. Ça, c'est vraiment déjà un gros chantier. Ça se voit aussi tout simplement, par exemple, on dit dans l'occupation de l'espace des cours de récréation quand on est petit, c'est pas seulement les activités, les jeux, c'est tout simplement ce qu'on s'autorise à prendre, à vivre, crier, etc. Donc ça, c'est déjà important, c'est là où vraiment tous ceux qui sont en lien avec la jeunesse ont un rôle primordial. Ensuite, bah, bien sûr, le corollaire de ça, c'est donc ni sexisme ni homophobie, ce n'est pas que pour les uns. Donc par rapport à l'orientation scolaire, et puis bien sûr changer les représentations du couple, donc qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, faire en sorte que les 18 heures de temps de travail supplémentaire que fait la femme chaque semaine, comparé à l'homme en moyenne, statistique INSEE, en France, se résorbe, puisque ces 18 heures-là qui est passé par les femmes en travail gratuit, est investi par les hommes en... Foot, conseil municipal, politique, formation professionnelle, détente, radio, engagement associatif. Pas de problème, la vie est belle. Donc, ça, là, je veux dire, c'est le cœur des inégalités.
Et alors, quelle est la différence entre la parité et l'égalité ? Parce qu'on sait qu'il y a des lois parité qui ne sont pas franchement respectées, surtout dans la représentation nationale.
Oui. Alors, la parité, on dit qu'elle se situe entre 40 et 60 %. C'est-à-dire que la parité, l'égalité, on devrait dire, c'est vraiment égal. Bien que, je veux dire qu'il y a une nuance entre l'égalité absolue et l'égalité dans la différence. Dans l'introduction, vous avez cité Mars et Vénus. C'est très intéressant. C'est le genre de représentation du monde qui m'insurge. Parce que Mars et Vénus, c'est réclamer certes l'égalité, c'est pas dire dans ce genre d'idée les hommes et les femmes sont inférieures aux hommes, c'est dire les hommes et les femmes sont égaux, mais ils sont différents. Est-ce qu'on accepterait ce discours si on disait non mais les noirs et les blancs sont égaux, mais ils sont différents. Ils sont différents en quoi, à part de la couleur de peau? C'est-à-dire qu'on a juste des organes différents, et encore c'est un seul organe, le reste c'est exactement identique. Donc, la pente glissante, quand on évoque l'égalité dans la différence, et non l'égalité absolue, en droit et dans les faits, c'est de dire, ensuite, très vite, « Ah ben, en fait, on est complémentaires. Ah ben, en fait, la maternité, la féminité, ou la masculinité, la virilité, ce sont des choses qui ne sont pas culturellement acquises, mais naturellement innées. » Et de là, elle, la porte ouverte à dire des choses qui sont donc sexistes ou racistes. Ça revient exactement au même que de dire « Il y a, par exemple, une négritude. » C'est ça la différence entre l'égalité dans la différence et l'égalité absolue. Et la parité, donc là, on est plus sur une notion, je dirais, de chiffres et pas sur 50-50. Donc, par exemple, pour certains suffrages, on est plutôt entre 40-60 en ce qui concerne la parité.
Est-ce cette égalité est-elle une responsabilité politique ?
Oui, c'est une responsabilité politique, puisque là, il y a un ministère des droits des femmes, de l'enfance et de la famille. Mais encore une fois, ça ne va pas de soi, parce que tout dépend si le gouvernement en place décide de faire de l'égalité femmes-hommes une politique concentrée dans un ministère, ou s'il décide, dans chaque ministère, d'impulser cette politique-là. Et là, ça change tout. Parce qu'en fait, quand on chausse les lunettes du genre, c'est l'expression, on se rend compte que ce soit l'agriculture, l'éducation, jeunesse et sport, la santé, la justice, on peut avoir une vision égalitaire femmes-hommes et avoir une grande vigilance par rapport aux lois qui vont être passées dans tous les ministères. Donc c'est une responsabilité politique, mais il y a beaucoup de stratégies différentes pour l'impulser.
Voilà. Béatrice a une question, je crois.
Oui. Alors, juste une question, vous avez parlé du ministère des femmes, de l'enfance, et voilà, est-ce que ça ne vous interpelle pas? Parce que moi, quand je l'entends, ça m'interpelle.
Oui, alors je vais répéter...
Sans vous mettre en difficulté.
D'associer enfance,
femmes, enfance, famille. Finalement, déjà là, est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme de sexisme, quand même?
Oui, alors, à première vue, c'est vraiment ce que l'intitulé laisse entendre. Alors, je vais ne faire que répéter ce que la ministre a dit. Elle a dit qu'elle associait, en fait, l'enfance et la famille aux droits des femmes parce que c'était au cœur de la famille et du couple que se logeaient les plus grandes inégalités.
Une belle parole politique.
Oui, une parole sur laquelle on va conclure notre interview. Et donc, je remercie Sarah Monta, de la préfecture de l'heure, d'avoir bien voulu nous éclairer, répondre à nos questions.
Ben, merci à vous pour le travail que vous avez mené.
Merci.
Laisse-moi zoom zen. Laisse-moi zoom zen. Laisse-moi zoom zen dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ting, ting, ting. Laisse-moi zoom, zoom, zen dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ting, ting, ting. Girl, t'es sexy, viens voir Co-City. Original Ragaman dans la ville de Paris. Girl, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Et c'est one bouge carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls move. move, move up, move up. Rough comme une louve, bouge ton corps de la tête aux pieds et là je t'approuve. Say move up, move up. Girl, want ton body, montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. One comme une vipère, si t'as le savoir-faire, t'inquiète pas, y'a pas de galère. Je le dirai ni à ton père ni à ta mère. Ondule comme un ver de terre, jette-moi dans les yeux ton regard de panthère. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Laisse-moi zoom zoom zen dans ta Benz Benz Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding ding ding. Ouais, vas-y, tu explique-leur.
Ça se passe à l'arrière.
Benz, 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 ouais. Du côté de Saint-Denis, baby, je te garantis qu'il y a des dingues de dingues. T'es ma mire, je suis la flèche que ton entrejambe attire. Amour de Lufia, on vivra en nos troupes, toi et moi. Mais ce soir, faut que ça brille, faut qu'on en quille. Je veux du freestyle, je veux que tu réveilles, que tu stimules mon côté bestial. Pompe, baby, monte sur mon scène, Saint-Denis-Fonk. Je te la ferai façon, je t'en. Putain, y'a que ça qui me rend junk. À ton contact, je deviens liquide. C'est comme un trou intemporel. Bouge ton corps de femelle. Regarde le long de tes hanches, je coule. Ondule ton corps, baby, ouais. Ok, ça roule. Je deviens insaisissable à ton contact. L'air est humide, c'est comme une étincelle dans ton regard avide. Laisse-moi zoom zoom zen. Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding, ding, ding. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding, ding, ding. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding, ding, ding. Laisse-moi zoom, zoom, zen. Dans ta Benz, Benz, Benz. Quand tu pointes ton bumper, ça me rend ding, ding, ding.
Donc nous, aujourd'hui, nous allons concocter un cake au roquefort et à l'abricot. En difficulté, c'est facile, donc tout le monde doit y arriver.
Même Béatrice y arrive, alors non.
Et avec des noisettes décortiquées. Ensuite, donc, c'est un coup bon marché. C'est un temps de préparation donc de 20 minutes. Temps de cuisson, 40 minutes. Les ingrédients, donc notre cake sera pour 8 personnes. 200 g de farine, 3 œufs, 10 centilitres de lait, 5, c'est très bien Béatrice, 5 centilitres d'huile, un sachet de levure chimique, très très bien, et le meilleur c'est une boîte de Roquefort, ça c'est bon hein, le Roquefort. Et ensuite, 10 abricots secs, très bien, et l'indispensable sel et poivre.
Et nous rajoutons
nos noisettes décortiquées.
Petite info, comme on fait de la cuisine de bricolage, nous n'avions pas de verre doseur, donc pour mesurer la farine, les 200 grammes de farine, nous avons, après des recherches sur Internet, nous avons trouvé que 200 grammes de farine sont égales à 18 cuillères à soupe.
On trouve tout hein, sur Internet.
On trouve tout sur Internet. Donc Stéphane est parti pour nous mesurer les 18 cuillères à soupe de farine. Merci Stéphane. Cuillère,
ouais, comme
là ça me semble pas mal,
ouais,
à moitié
c'est
pleine.
Bon.
Et de une.
Une.
Deux. Trois.
Donc voilà, donc nous avons mis donc 18 cuillères donc, de farine. Alors, la préparation. Alors, la préparation, il faut préchauffer le four, thermostat 7, c'est-à-dire 210 degrés. Alors, mélanger donc, la farine, les œufs, le lait, l'huile, et la levure, le sel et le poivre. Oui, donc ça, c'est un sachet de levure. Hein.
Un sachet de levure.
Ouais. Ensuite, il nous faut les œufs, donc c'est 3 œufs. Tout ça donc dans notre récipient avec la farine.
1, 2, 3.
Ouais.
Très bien, on s'est compté au moins jusqu'à 3. Moi, donc 10 centilitres de lait. Donc,
j'incorpore tout doucement en fait, le lait avec mes œufs battus.
Oui.
Et j'incorpore petit à petit la farine.
D'accord.
Le grumeau, en fait, il faut incorporer au fur et à mesure.
On voit qu'on a affaire à une pâtissière. C'est quelque chose à voir.
C'est pour ça que j'ai ramené.
Je pense qu'on va passer du stage amateurisme au professionnalisme.
Et combien d'huile également il nous faut ?
5 centilitres.
Et c'était bien 10 centilitres de lait ?
Oui, 10 centilitres de lait, oui. Ah, ça va être délicieux.
N'est-ce pas ? Vous avez vu
un peu ? Ah, ça va être délicieux parce que quand tout ça, ça va être incorporé avec les abricots. Le roquefort, voilà. Les 5 centilitres d'huile.
Alors voilà, je les rajoute une fois que, effectivement, ma pâte, elle est... J'incorpore l'huile une fois que ma pâte est bien battue, en fait.
Ouais.
Une fois que j'ai bien battu mes œufs, que j'ai incorporé la farine progressivement avec le lait, autrement, ça fait des grumeaux.
Alors ensuite, bah, le sel, ça va être bon, hein. Ça sent bon, le roquefort ?
Mmh.
Moi, j'aime bien le roquefort, je l'adore.
Vous aimez le roquefort ? Non.
Oui.
Je dis pas de bêtises, c'était la première appellation d'origine en France, le roquefort, il me semble.
Ah oui.
C'était la minute culture.
Culture.
Effectivement, je coupe un peu le roquefort, mais je mélange. Et hop. Ensuite, les abricots.
Les abricots secs, oui.
Bon, je les ai pris moelleux.
Ouais. Ah bah, de toute façon, ce que femme veut. Hein.
Donc, pour arriver à ouvrir...
Voilà, toute la difficulté, finalement, de la recette, c'est d'ouvrir le paquet d'abricots moelleux. Mais Stéphane, voilà, Stéphane est un homme, donc il y arrive beaucoup plus facilement que moi.
Oh non, non, maintenant, non, c'est plus comme ça, maintenant.
Donc les abricots, on peut les couper. Moi, je privilégie de les couper, en fait, en petits morceaux. Voilà. Et moi, effectivement, dans cette recette, s'ajoutent des noisettes, des petites noisettes, parce que je trouve que le mélange...
Donc, alors, on met bien du papier sulfurisé.
Voilà.
Comment appeler papier de cuisson ?
Eh bien, vous voyez, déjà, la recette, elle est terminée, en fait. Voilà. Une recette rapide, pas forcément bon marché, en fait. Vous avez dit, Didier, bon marché, mais pas forcément bon marché, mais très bonne.
Bon.
Oui,
bon.
C'est très bien, ça peut être fait à l'apéritif. Et puis après, en couper en morceaux, et c'est très bon, mais pas forcément bon marché, parce que les abricots et les noisettes, c'est...
Ça coûte cher.
Ça coûte cher.
Ça coûte cher, d'accord. Oui, petite précision, donc le temps de cuisson... pour ce cake est de 40 minutes environ et laissé à refroidir avant de déguster.
Donc on continue les textes où on se met dans la peau de l'autre sexe. Si j'étais une femme, je serais toujours débordée. Entre le vernis à ongles, le maquillage, le shopping et les ragots au téléphone avec les copines, j'aurais à peine le temps d'aller m'acheter Voici et Gala et de rentrer assez vite pour regarder Les Feux de l'amour. Ah oui, si j'étais une femme, je commencerais par m'acheter une calculette parce que je serais nulle en maths. Et puis je me trouverai un mec pour qu'il puisse utiliser la calculette quand j'aurai une addition à faire. Si j'étais une femme, je pourrais pas être maçon ou camionneur, ce serait trop dur. Mais ça, ce serait pas grave, puisque j'aurais de m'occuper de bébés ou de poneys. Parce que les poneys, c'est trop mignon, comme les bébés. Si j'étais une femme, j'aurais un boulot avec pas trop de responsabilités. Parce que quand c'est sérieux, bah faut un homme. Et puis je serais moins bien payée aussi, mais c'est pas grave, parce que j'aurais un mari pour me ramener de l'argent. Si j'étais une femme, je ne serais pas députée ou sénatrice, parce que la politique, ce serait trop compliqué pour moi. Et puis, je supporterais les blagues des hommes et leurs gestes déplacés. Mais ce ne serait pas grave, puisque ce serait pour rire. Et si j'étais une femme, je ferais partie de la moitié de l'humanité traitée comme de la merde. Et je ferais la révolution, et je ferais ravaler leurs conneries à tous ces gros porcs de politique, de patrons, de rappeurs, d'intégristes. Et puis, je tondrais toutes ces femmes qui collaborent avec l'oppresseur masculin. Et si j'étais une femme, je crois que ça me ferait encore plus chier de vivre dans ce monde.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Il était une fois, deux fois, trois fois et crise de foi. Le Narvalo et ses sous-fifres, sous-quittes, sont perdus dans les méandres de leurs infâmes rêves du monde des bisounours. Pendant ce temps-là, les chevaliers, l'aide menée par Yodend, ont investi le château Intramuros dans leur fort intérieur qu'ils défendent âprement et avec vaillance et chevaleresque tide. Soudain, Yodend s'exclame.
Le ciel est anormalement sombre et il n'y a plus un bruit. Pas même un beuglement d'escargot. Avez-vous pensé à rentrer le linge, cher Moulmou ?
Il n'y a plus de linge mou. Il n'y a même plus d'étendage mou. Au secours, mou, au secours, mou. Tout disparaît, mou, tout fond, mou, 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 mou. Je me sens mou, mou, mou. Heureusement, mou, que je suis abrité, mou.
Je m'inquiète quand même pour les papounets. Or, Esclamoros du château, peut-être est-il encore temps de lui envoyer un sort de couverture pour la protéger, abracadabra.
Et le sort de couverture chauffant des survies est efficace, mais trop tardif. Les jambes au nombre des deux et les cheveux au nombre des deux du Narvalo restent exposés aux pluies acides. Il semblerait que les frontières poreuses aient laissé passer, une fois n'est pas coutume, deux fois non plus, trois fois c'est à voir, les nuages et radios principe actif de Tchernobyl. L'ozone est enfin libre. Sous un magnifique arc-en-ciel fluorescent, le narvalo reprend conscience et entame un discours, et réminiscence de son passé d'empereur, lapin rose et des dictateurs d'Ozoni.
Ozone outragée, ozone bafouée, ozone martyrisée, ozone macronisée, ozone valisée, ozone lepenisée, ozone libérée, elle-même, par elle-même, et même moi-même, et contre la volonté de son peuple grâce au nuage radio principe actif de Tierno débile. Tiens, c'est bizarre, j'ai dû gagner en souplesse. Je peux me gratter les orteils sans me baisser. Au moins qu'il s'agisse d'un problème de taille ou de détail. Je ne sens un courant d'air frais au sommet donc de mon crâne, auparavant recouvert d'un crin digne du plus bel étalon. Bref, c'est le cas de dire, je suis un nain chauve.
Soudain, comme une mauvaise parodie de thriller, ou d'un film de Romero, ou de Wes Craven, des boules de forme oblongue et ovoïde sortent de terre. Chantant leur chant de marche nuptiale et guerrière, les Amazones naines et chauves mais harmonieusement proportionnées, roulées comme des petites brioches dorées à souhait, émergent autour du narvalo.
Je me nomme Fantomat Bataf. J'ai le grade d'Amazon Premium et je décide des lois en moins de 24 heures. Satisfaction garantie, non remboursée. Monsieur le nain chaud, je vous épouse sur le champ d'honneur. Saurez-vous faire front?
Vous dites ça parce que je n'ai plus de cheveux, bel enfant imberbe du crâne.
Arrête de la ramener avec ton crâne d'œuf ou je fais une omelette. Quand on sera marié, direction la cuisine, tu l'ouvriras moins.
Bon, je suis d'accord, si on commence par la nuit de noces, mais pour le principe, je dois demander que se passe-t-il si je refuse.
Mes braves Amazones, attrapez-le et assommez-le avec vos masses d'armes, Bilboquet, Dieu Michel et Jackie et leurs amis.
Ainsi se termine cet épisode, aussi court que le membre protagoniste, ainsi soit-elle de poulette. Comme d'habitude, qu'arrivera-t-il ou pas au narvalo? Aura-t-il droit à sa nuit des noces? Comment différencier son crâne et son divin fondement? Yodend parviendra-t-elle à sauver son papa? Pour le savoir, rendez-vous dans un mois pour les Amazones chauves et naines.
Thank you. Que peut-on faire pour beaucoup plus d'égalité?
C'est aux employeurs de voir ce qu'ils doivent faire. Je pense que s'ils étaient honnêtes, ben ça se ferait tout seul.
Déjà, ne serait-ce que le respect au quotidien, tous les jours, de la part surtout les hommes envers les femmes. Voilà, il me semble que bon, si on commençait par là, ce serait déjà pas mal.
Communiquer. La communication, parler, expliquer qu'on peut être différent tout en étant égaux, que malgré tout l'égalité, c'est un homme et une femme sont différents, ont les mêmes droits, mais ne sont pas forcément pareils. Et voilà, réussir à rétablir un équilibre comme ça.
Faire plus, pour l'instant, je ne vois pas, parce que, à mon avis, la femme sera toujours inférieure. Mais ça serait au niveau des femmes. Faire voir qu'ils sont là et qu'ils savent, qu'ils font voir qu'ils travaillent plus que nous.
Voilà. Peut-être que les femmes devraient, le sexe féminin devrait, comme il fait maintenant, de prendre plus d'ampleur. C'est eux qui doivent apporter les voix pour permettre une parité femmes et hommes. Des femmes au pouvoir, des femmes fortes. Ces femmes-là peut-être que peuvent amener sûrement... inégalité.
Je pense que les gens doivent se rendre compte que les femmes ont un droit et qu'il faut le faire respecter. C'est vraiment que les lois qui sont mises en place soient respectées et que dans les entreprises, dans tout en fait, que les gens se prennent conscience de l'égalité entre un homme et une femme.
Oui, bien bonjour, voici Rémi. Je vais vous lire un petit texte sur l'inégalité entre hommes et femmes qui parle de « Vous allez le découvrir avec tous les auditeurs ». Je vous lis mon petit laïus, peut-être imaginaire, peut-être pas, je le débute, enfin. Tenez, voilà une profession où il y a bien, et cela est connu, l'inégalité entre hommes et femmes. Enfin, si j'ai bien calculé, oui. Dans cette profession, inégalité entre nous, je vous le dirai un peu plus tard le nom de cette profession. Donc me voilà, je travaille pas ou je travaille, mais toutes les semaines environ j'ai mon rendez-vous, mon 5 à 7, plutôt un 14 ou 15 heures. Enfin voilà, je commence. Mon rendez-vous vers 7 heures du matin. Pour y être à 14h, 15h. Donc 7h du matin, moi normal, je me bourre avec cachet et soin de Rome. Et oui, car tout ne s'est pas bâti en un jour. D'ailleurs, cette profession en est la preuve. L'humain ne s'est pas construit en un jour. Post-scriptum, les animaux, je ne sais pas. Donc 7h du matin, 7h d'affilée, je me suis bourré. Bien bourré, donc enfin, je me rends chez le psychanalyste. Oui, la psychanalyste. Ou la psychanalyste, car c'est bien de cette profession de psy qui est question. Donc, vous savez, la profession. Donc, je continue. Je toque ou sonne à la porte. Déjà, elles sont deux à m'ouvrir la porte. Une rose et une verte. Alors là, je me dis, oui, il y a plus de psychanalystes, femmes que hommes. Au bout de trois quarts d'heure environ d'entretien, je la quitte. Mais là, elle n'est plus qu'une. Alors, je me dis, il y a inégalité de psy, homme ou femme. Ou plutôt, je me dis, j'en consomme trop. Oui, j'en use et abuse, mais de quoi? De psy ou de rhum? Allez savoir, même une psychologue ne s'est pas bâtie en un jour. Bon, je vous laisse et retour à mon rhum. J'ai pas dit rhum, mais rhum. Car tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet. C'est mon rhum. Je vous laisse libre de penser, libre de vous bourrer, de consulter un voyant ou une voyante, ou un psy ou une psy. Mais surtout libre de délirer, à plein poumon rempli d'oxygène et les oreilles remplies d'ozone. Même à jeun, tous les derniers jeudis du mois, toujours à notre écoute, comme un psy ou une psy. Salut de ma part.
Un texte conçu et écrit par une femme, lu par un homme. Une journée de week-end. Si j'étais un homme, après la douche, pour un bon réveil, habillé rapidement, moins d'hésitation apparemment, et puis comme j'irais faire un footing en forêt, le choix serait vite fait. Et la forêt. Pour un homme, un peu moins risqué que pour une femme. Quoique, bien sûr, un long parcours, car l'homme plus apte à cette endurance, en général, toujours plus d'hommes que de femmes. Vu dans les marathons, même si en retour, nouvelle douche, et puis avec élégance, je commencerai à préparer le déjeuner, ma femme me rejoindrait ensemble. Petit plat, mitonné, bon dessert, serait fait, et en discutant, on a mis de voyage, de projet, je savourerai ces moments. Puis je laisserai ma femme choisir son envie de sortir de l'après-midi. Elle évoquerait, vu le beau temps, une escapade, pourquoi pas, sur la côte, au bord de la mer, prendre le grand air, l'idole, les grands horizons et, comme l'idée me plaît, et faire plaisir à ma femme est ma priorité. J'y trouve mon propre plaisir, on partirait. Ainsi que légère en voiture, paysage printanier à admirer et voilà, agréable d'être ensemble. On n'a pas vu le trajet passer et facile de s'égarer. Ce n'est pas la haute saison. Et là, enfin, les grandes espèces, les grands espaces, nos pieds nus dans les sables, fins, n'échangeons rien. Quel plaisir d'être un homme.
Alors, je vais vous faire une minute du pôle très rapide compte tenu du retard. Je voulais juste dire quelques mots sur ce qu'a pu dire la psychanalyse sur la question de la féminité. Freud lui-même, et selon son propre aveu, a buté sur la question « que veut la femme ?». Pour Freud, la femme est ce continent noir, si mystérieux qu'il tente d'approcher. Il précise « il appartient à la nature même de la psychanalyse de ne pas vouloir décrire ce qu'est la femme, ce qui serait ». Difficilement réalisable, mais d'examiner comment elle le devient. Pour l'anecdote, Freud a sans doute inspiré à Simone de Beauvoir son fameux « on ne naît pas femme, on le devient ». Freud présente alors une femme captive d'un état de société à l'époque où il n'y avait pas de salut hors mariage et qui l'a condamnée à ne se réaliser qu'à être mère. Lacan, lui, à la fin de son enseignement sur la sexualité féminine, se posait la question de savoir si ce n'était pas par les femmes que le statut du mariage se maintenait dans notre culture. Cette remarque de 1958 paraît aujourd'hui hors de propos. En quelques décennies, le statut inaltérable du mariage a cédé. Les images et les symboles de la femme ont bien changé. L'éclairage lacanien apporte un nouveau regard sur la question de la féminité qui ne réduit pas l'être femme à la position de mère. Cette boussole, c'est vrai, oriente notre travail de psychologue auprès de patientes femmes. Pour finir, la société nous offre l'image d'une femme épanouie qui fait ses choix professionnels, qui choisit son compagnon. Qui choisit un homme pour ses enfants à venir, qui assume sa sexualité en utilisant les moyens de la contraception. La clinique, elle, nous confronte à la réalité de l'inconscient qui est tout autre. L'inconscient parle un autre langage. Il nous délivre un savoir inédit. Et là, un petit hiatus. je suis perdue dans mes feuilles. Il nous délivre un savoir inédit, point final.
Pour conclure, nous espérons que cette émission sur le thème « L'égalité femmes-hommes » n'aura pas trop bousculé vos convictions les plus intimes. Nous remercions encore Sarah Manta de la préfecture de l'Eure d'avoir voulu répondre à nos questions. Merci également à vous, auditeurs, à l'équipe d'Ozone Libre, une équipe haute en mots et en couleurs, et à l'équipe de Principe Actif, le magnifique JC, le somptueux Damien et les mignons Timothée. Prochaine émission, le jeudi 26 mai à 12h30. D'ici là, retrouvez nos broadcasts sur le www.principeactif.net sur la page de l'émission Ozone Libre.
Environ 300 dopsons.